Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
Bonjour. La Côte d'Ivoire est secouée par des grognes à répétition de militaires qui exhibent des revendications financières. Mais le pays, durement touché par l'effondrement des cours du cacao, dont il est le numéro un mondial, a-t-il les ressources nécessaires pour calmer les soldats mutins ? Après une nouvelle mutinerie, un nouveau mouvement d'humeur ce mois de mai qui a touché plusieurs grandes villes du pays, le gouvernement a annoncé un accord. Des indiscrétions, pas moins de 59 milliards de francs CFA, soit plus de 89 millions d'euros, devraient sortir des caisses pour solder la créance d'ici le mois de juin. Mais cela suffira-t-il pour que le pays retrouve son calme ? Rien n'est moins sûr. Comme on l'a déjà vu par le passé, d'autres fonctionnaires de l'armée ou des autres secteurs pourraient demander à être servis eux aussi. Mais pourquoi cette vague à quelques années de la fin du séjour du président Alassane Ouattara au sommet de l'État ? À qui profite cette instabilité ? Nous en parlons avec nos invités sous l'arbre à palabre. Professeur Alban Aouré, maître de conférences, agrégé en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, président de la cellule d'analyse de la politique économique de Côte d'Ivoire. Monsieur Aouré, bonjour.
Bonjour,
André Silver Conan, écrivain, journaliste d'investigation, qui se présente aussi comme lanceur d'alerte. Monsieur Silver Conan, bonjour.
Bonjour.
Et Kag Sanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits, initiateur de la pratique de l'intelligence négociationnelle. Monsieur Sanoussi, bonjour.
Bonjour.
Au micro, Fréjus Kenom, chers invités et auditeurs du programme francophone de la Deutsche Welle, merci de nous retrouver dans ce débat. Pour commencer, André Silver Conan, que savez-vous de l'accord annoncé le 15 mai par le ministre ivoirien de la Défense, Alain-Richard Danwahi, qui se voulait très rassurant en parlant de règlement définitif du problème des militaires ?
Ce n'est pas un langage nouveau. Depuis janvier déjà, le gouvernement avait annoncé un accord définitif. Et donc, comme vous me posez la question de savoir qu'est-ce que contient cet accord, officiellement, on n'en sait rien. Voilà. Le gouvernement a choisi de ne pas communiquer sur les détails de cet accord.
Mais cela inspire des questions. On peut se demander pourquoi le gouvernement a choisi de ne pas parler de ce qui est conclu, de ce qui est retenu.
Oui, mais pour moi, c'est très simple. On part de l'origine de cette affaire. À prime Ecomog. Et pourquoi est-ce que le gouvernement est amené à payer des primes Ecomog à des soldats ? Voilà, l'opacité dans la communication du gouvernement est liée à l'opacité même de la promesse qui a été faite aux soldats. Et donc, il y a eu un crime originel dès le départ qui a consisté à se lancer dans des compromissions avec des soldats. Et c'est cette compromission qui explique l'omerta qu'observe le gouvernement sur les détails de l'accord.
Alors, il faudrait peut-être qu'on explique. Ecomog, dont on parle, c'est la force de la CEDEAO qui a assuré la stabilisation au Libéria. Et les éléments mutins, on les présente comme étant pour la plupart des ex-combattants des forces nouvelles. La rébellion dirigée à l'époque par Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale. Et donc des éléments qui ont été incorporés à l'armée nationale. C'est une situation un peu compliquée que vit la Côte d'Ivoire. Et cette opacité, ce manque d'informations n'arrange pas les choses. Kag Sanoussi, vous, que savez-vous de tout ce qui est en train de se tramer? D'où vient cette grogne qui n'en finit pas, qui fait comme un serpent de mer?
Oui, effectivement, je pense que la compréhension de l'origine peut aider à voir comment la chose chemine. Ce que dit mon collègue tout à l'heure sur la prime Ecomog, on peut également le regarder parce que vous savez que les gens qui actuellement sont en itinéré, c'est ceux qui ont accompagné le président Ouattara lors de la crise électorale. Et ce qu'on comprend par rapport à cette prime, c'est le temps qu'ils ont passé après avoir donc pris le pouvoir et entre ce temps et leur incorporation dans l'armée. Donc ce gap-là, où certains disaient qu'ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient, ils n'avaient plus rien, et donc ils n'étaient pas encore intégrés dans l'armée, donc ça crée un hiatus d'où un accord qui a pu avoir lieu d'abord en commençant par Guillaume Soro, puisque c'était lui responsable des forces nouvelles. Et c'est devenu une prime à devoir aux personnes qui ont tout laissé pour accompagner le président. Et cette prime, peut-être, est rebaptisée prime Ekoumov. Donc je pense que l'origine de cette prime-là pose problème dans un premier temps. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on est confronté est une situation beaucoup plus compliquée avec plusieurs variantes. Et d'autres acteurs sont venus s'ajouter à cette demande de rémunération.
Merci beaucoup pour cette clarification. Est-ce que, André Silver Conan, vous avez peut-être quelque chose encore à ajouter?
Non, je déplore avec de nombreux Ivoiriens que une affaire aussi sérieuse puisse être frappée par le sceau de l'Omerta, d'autant plus que ce sont, on vous parle de milliards, de centaines de milliards depuis janvier qui sont en jeu. La Côte d'Ivoire a revu à la baisse ses prévisions de budget, une première depuis de très longues années. Et donc, quand les caisses de l'État sont mises à rude épreuve pour des choses dont on ignore les tenants et les aboutissants, comprenez que les petits peuples puissent quand même trouver des motifs de protestation, voilà, d'incompréhension.
Professeur Alban Aouré, vous qui êtes économiste, c'est vrai qu'on parle de beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, mais à l'occasion de la célébration de la fête du travail, le 1er mai, le président Alassane Ouattara, il demandait une trêve sociale pour que des négociations puissent se poursuivre. Et il a dit aussi que le pays se portait mal. Le pays n'avait pas l'argent nécessaire pour mettre en œuvre certains projets, etc. Donc, c'est un pays, disons financièrement à mal, qui fait des promesses maintenant de paiement, d'indemnité aux militaires. Vous, comment est-ce que vous appréciez toute cette situation?
Bon, effectivement, il faut dire qu'avec la baisse du cours du cacao notamment, nous avons donc une baisse de 40% du prix mondial qui a un effet important sur la réalisation du budget 2017. Donc voilà pourquoi il y a une insuffisance de ressources pour atteindre les objectifs budgétaires. Et la situation actuelle entraîne des promesses par rapport donc à la mutinerie et pourrait certainement avoir aussi un effet budgétaire. Mais c'est une question d'arbitrage également. Et comme on le dit souvent, la paix n'a pas de prix. Donc c'est un arbitrage important qui est fait par le gouvernement. Et quant à voir donc au niveau donc des ressources, sur quel type de ressources seront prélevées, ce qui sera accordé notamment à ceux qui étaient dans des revendications récentes.
Alors, au total, 59 milliards de francs CFA, en tout cas, c'est le chiffre qu'on entend. Alors, est-ce que le pays va pouvoir sortir cet argent? D'où est-ce que ça va venir, M. Aouré?
D'où est-ce que ça va venir? Mais d'abord, il faut s'attendre à ce que ça vienne des ressources domestiques parce que, effectivement, les ressources internationales, le plus souvent, ne peuvent être utilisées dans ce genre de situation. Mais donc, les ressources domestiques, ça veut dire qu'il faut suffisamment mobiliser tant au niveau des impôts que des douanes.
Mais de quoi parlez-vous concrètement? Puisque ce que vend le pays le plus, c'est le cacao et les cours de la fève ont chuté, on l'a dit.
Concrètement, ça veut dire que davantage, il faut qu'on optimise au niveau, par exemple, des impôts. On optimise, ça ne veut pas dire qu'il faut accroître les taux de fiscalité, mais plutôt arriver à mobiliser plus en agissant sur le secteur informel, en agissant sur le foncier, en agissant sur là où on mobilise le moins, par exemple.
Nous enchaînons avec ce qu'il était en train d'expliquer, Kag Sanusi. Voilà, l'économiste indiquait qu'il y avait des secteurs dans lesquels l'État pourrait piocher un peu d'argent pour pouvoir faire face à ses engagements. Est-ce que vous croyez que ça pourra réussir?
Parce que le problème n'est pas tant ça comment l'État va payer. L'État, avec un échelonnement, avec donc l'économie endogène, puisqu'effectivement il y a une baisse donc des recettes par rapport à la crise que nous connaissons, et donc l'État peut réussir à lisser. Mais le vrai problème, c'est les conséquences, je dirais, militaires et sociales. Et parce que c'est valu entre 50 et 60 milliards à peu près, ce qu'on doit payer aux mutants. Et cet argent-là, dans quel cadre on le paye aux mutants? Et qu'il faut savoir que les mutants, on les évalue autour de 8 500 à peu près, et c'était 19 000. Mais l'armée ivoirienne est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, cette prime qui est payée, la crainte qu'on peut avoir, c'est que comment d'autres militaires vont réagir. Première chose. La deuxième chose dans l'analyse qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir un risque social aussi. Le risque social, c'est qu'il y a beaucoup de populations aujourd'hui, il y a des efforts du gouvernement. Tout ne nous permet pas aujourd'hui de dire que mais les jeunes à Abidjan, par exemple, tous n'ont pas du travail, même s'il y a des efforts qui sont faits. Comment, sur le plan social, ça peut être vu que 60 milliards puissent être donnés. Donc, il y a d'abord à trouver les fonds et une pédagogie à mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, Abidjan, différents endroits ont été paralysés. Certains acteurs qui devaient se déplacer sur Abidjan n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, donc, si on ne résout pas ce problème, on va handicaper l'économie du pays. Et donc, il est important de le régler, durablement pour ne pas créer d'autres crises. Mais il est aussi important de l'accompagner avec une pédagogie aussi bien par rapport aux autres militaires qui regardent. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont concernés, c'est des gens qui sont venus, c'est des forces nouvelles qui ont été intégrées à l'armée. Donc, ça pose également une question au niveau de la cohésion de l'armée, de traitement égalitaire, de comment d'autres peuvent ressentir cette attention accordée aux mutants et aussi la population. Donc, le gouvernement est dans une situation qui n'est pas évidente. Régler la question des mutins et aussi anticiper qu'il n'y a pas d'autres grognes et faire en sorte qu'au niveau de la population, ça puisse se passer dans cette pédagogie nécessaire à mettre en œuvre.
Vous parlez de pédagogie. André Silver Conan, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui pourra marcher? Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent que oui, les mutins, leur niveau d'instruction n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir leur faire comprendre que commencer à réagir comme ça, comme ils l'ont fait, n'est pas forcément la méthode à adopter pour revendiquer.
Non, ça ne marchera pas. C'est aussi clair que cela. Ça ne marchera pas pour plusieurs raisons. La première, le professeur Albin était en train de le démontrer, c'est qu'il y a un budget. La première mutinerie a éclaté en janvier. En janvier, et donc le budget de la Côte d'Ivoire avait déjà été adopté, validé. Évidemment, dans un budget d'un État responsable, on ne prévoit pas un poste budgétaire pour consacrer aux mutineries. Et donc, avec la révision à la baisse du budget, on se rend compte qu'il y a une tension au sein de la trésorerie de l'État. Et qu'est-ce que l'État est obligé de faire? Puisque là, selon nos informations, les mutins sont en train de passer à la caisse là maintenant. Cela veut dire que l'argent a été déjà viré sur leur compte. En tout cas, pour ce qui leur a été promis pour ce mois de mai. Pour dire que l'État n'est pas en train d'aller chercher de nouvelles sources de financement pour régler cette affaire. L'État a trouvé des financements pour régler l'affaire. Et cela veut dire que l'État a été obligé donc de supprimer des postes budgétaires pour régler les mutins. Pour moi, il faut donc faire le deuil de l'émergence en 2020. Mais effectivement, au niveau de l'acceptation par le petit peuple, non, ça ne passera pas. Et quand des mutins qui n'ont aucun mérite à qui on promet 12 millions et à qui on remet d'abord 5 millions, puis 5 millions et le reste en juin, ça crée un véritable malaise social et on comprend pourquoi le gouvernement refuse de communiquer là-dessus, quoique nous sommes au 21e siècle. Et quelque chose qui concerne 8400 personnes ne peut quand même pas être étouffé.
Mais vous trouvez qu'ils n'ont pas de mérite, mais peut-être que du point de vue des gens qui sont au pouvoir actuellement, ils ont bien un mérite. Vous l'avez tous rappelé au début de l'émission que ces éléments ont quand même favorisé ou permis l'installation de Ouattara au pouvoir.
Effectivement, mais c'est un deal qui se passe entre Ouattara et les mutins, entre l'État de Côte d'Ivoire et les mutins. C'est une nuance qu'il faut bien que les gens comprennent. Et vous comprenez la gêne du gouvernement qui ne peut pas communiquer sur l'origine de la promesse. Voilà.
Professeur Alban Aouré, les réglages maintenant que le gouvernement est obligé de faire, des affectations budgétaires pour pouvoir satisfaire les revendications des militaires, comment est-ce que ça va se ressentir dans le quotidien des Ivoiriens?
Bon, on aura un ressentiment au niveau donc de la population. Étant donné que les investissements, c'est ce qui permet de créer des emplois, de distribuer des revenus. Donc, on aura un effet. Maintenant, jusqu'à quelle hauteur Cela dépend, bien sûr, des postes qui seront révisés à la baisse.
Mmh. Merci beaucoup. Kaksanoussi, ce qu'expliquait donc M. Alban Aouré, c'est qu'il risque d'y avoir maintenant une baisse de l'investissement public, ce qui aura des conséquences sur l'investissement privé. Or, c'est ce genre d'investissement qui crée l'emploi, qui donne à manger aux gens, aux couches, disons, les plus basses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, M. Kaksanoussi?
C'est un risque à craindre. Il n'y a pas automatiquement de cause à effet, mais c'est l'analyse, la première analyse qu'il a faite en disant que la Côte d'Ivoire a une croissance à deux chiffres. Au niveau macroéconomique, les clignotants sont au vert, mais au niveau microéconomique, le peuple ivoirien ne voit pas forcément pour l'instant parce que ça met du temps. Et c'est en cela où ça va être compliqué d'une part de faire adhérer à la population le fait que cette population qui ne voit pas sa situation vraiment évoluer puisse accepter que 50 à 50, 60 milliards soient versés aux mutins, qui sont parfois différemment appréciés par rapport à la situation abidjanaise. On n'oublie pas qu'il y a tout un travail donc, de réconciliation qui est engagé, donc, qui n'est pas un endroit fragile, et donc il faut être attentif à cela. Donc effectivement, ça peut avoir une conséquence aussi, parce qu'au budget de l'État, ce n'est pas forcément une somme prévue dans les éléments à ma connaissance. Et il n'y a pas 50 milliards de prévus automatiquement au démarrage du budget, donc c'est des éléments qui viennent crever un peu le budget. Et comme le disait un de nos interlocuteurs, ça peut empêcher un peu donc certains projets d'envergure de se réaliser. Je ne sais pas si ça va forcément diminuer l'émergence en 2020, mais ça peut l'handicaper sérieusement, surtout par rapport aux conséquences collatérales que la situation peut entraîner.
Voilà, donc de vos explications, on peut conclure que ce n'est pas fini. Hein, même si le gouvernement annonce un accord avec les mutins qui ont secoué encore le pays récemment, ce n'est pas fini. Il faut s'attendre peut-être à une réaction des gendarmes, hein, des autres éléments de l'armée, mais aussi les fonctionnaires, les autres travailleurs, les Ivoiriens, d'une manière générale, pourraient être amenés à réagir selon les conséquences subies des réglages qui ont lieu actuellement. Alors, mais la question que l'on pose souvent, André Silver Conan, à qui profitent ces troubles? Au départ, beaucoup avaient porté leur regard vers Guillaume Soro, soupçonné d'agiter tout ça par mécontentement suite à la nomination ou à la désignation d'un vice-président de la République, parce qu'il s'est retrouvé relégué un peu plus loin dans l'ordre protocolaire de l'État. Est-ce que vous croyez que c'est un peu crédible quand même cette approche?
Une chose est certaine, je pense qu'il y a une piste qui peut nous amener à savoir les mineurs encagoulés, je dis en griffe, puisque c'est un terme utilisé par le RDR, le parti de M. Ouattara. Il y a eu une découverte d'armes à un domicile privé à Boaké, en marge de cette mutinerie, dans une résidence appartenant à un proche de M. Guillaume Soro, en l'occurrence son directeur du protocole. Les proches de M. Guillaume Soro estiment que c'est une machination, un montage donc des armes qui auraient été convoyées à cet endroit-là pour impliquer M. Guillaume Soro dans cette affaire. Le ministre de la Défense a déclaré qu'une enquête est en cours. Les proches de M. Guillaume Soro disent que ce sont des armes qui ont été sorties de la poudrière pour être déposées à cette résidence. Si elles proviennent effectivement de la poudrière, cela veut dire que une main au sein du pouvoir essaye d'impliquer nécessairement M. Guillaume Soro dans cette affaire. Si les armes ne proviennent pas de la poudrière, cela veut dire que ceux qui indiquent M. Guillaume Soro pourraient aussi avoir raison. Et donc c'est une piste très sérieuse qu'il faut prendre en compte et qui va certainement nous amener à taire certaines rumeurs.
C'est aussi une piste, je dois le dire, à prendre avec des pincettes, tant qu'il n'y a pas d'enquête qui établisse complètement la véracité. Mais déjà, Kaksanoussi, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ce n'est pas la première fois que le nom de Guillaume Soro est un peu associé à ces mouvements d'humeur à répétition. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire?
De la prudence, parce que dans la situation ivoirienne, il faut faire attention, oui, pour ne pas ajouter à la confusion. Donc, moi, je dirais que c'est de la prudence dans un premier temps. Je fais attention parce que dans un pays où on sort de la guerre, où les éléments ne sont pas encore bien stabilisés, tout ce qui peut être sur de rumeurs ou d'informations sur cela peut aider à contribuer à la déstabilisation. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les conflits que nous avons connus, ceux qui ont payé le lourd tribut, ce sont les populations ivoiriennes.
Donc, moi, la prudence, vous dites, Kak Sanoussi, mais selon vous, à qui pourrait profiter tout ce trouble parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on.
Oui, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. La déstabilisation sert toujours à certaines personnes. La paix, c'est quelque chose qui est utile, mais tout le monde ne veut pas malheureusement la paix parce que dans la paix, certains n'ont pas leur intérêt. Et c'est pour ça que donc, les voix doivent être élevées là où ça doit être pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne bascule pas. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas du tout anodin ce qui se passe. Donc, il y a une attention particulière. Il faut anticiper, il faut être prévoyant et il faut essayer de gérer les tensions avant même qu'elles émergent. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une question de responsabilité aussi pour éviter de jeter de l'anathème sur une chaîne internationale, mais faire en sorte que là où on peut parler pour que les uns et les autres se ressaisissent parce que l'intérêt des Ivoiriens, c'est qu'il y ait la paix. Et que les Ivoiriens ne sont pas otages des gens qui viennent d'ici ou de là, ou des gens qui ont des intérêts ici ou là. Et ça, le peuple ivoirien ne peut plus l'accepter. Et quand on dit la Côte d'Ivoire, il faut se dire que c'est toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est une Afrique à miniature. Et donc, moi qui vous parle, je ne suis pas ivoirien, mais je suis fortement impliqué par rapport à la chose ivoirienne. Et parce que la Côte d'Ivoire, voilà, c'est le poumon africain et nous avons intérêt que ce pays redevienne totalement stable pour son développement.
Merci Kak Sanoussi. Alors, professeur Alban Aouré, est-ce que ce sont des questions que vous vous posez également? Qui peut être derrière tout ça? Quelles sont les mains invisibles? Le RDR, le parti au pouvoir, parlerait de gens cagoulés qui seraient derrière tout ça?
Mais ce sont des questions que tout Ivoirien se pose. Le plus important, comme cela a été dit, la paix acquise doit être consolidée. Nous devons aller de l'avant, nous ne devons pas encore retomber dans une crise grave en Côte d'Ivoire. Et lui arriver certainement qu'il faut faire encore plus attention à la réconciliation nationale pour que, bien sûr, les cœurs puissent s'apaiser davantage et que la Côte d'Ivoire puisse gagner, que tous les Ivoiriens gagnent. Donc il n'y a aucun gain réel à aller dans l'instabilité, dans le désordre. Que personne ne gagnerait à ce qu'on revienne à une case départ quelque part.
Vous parlez de réconciliation.
Donc je veux dire que tous doivent travailler à la consolidation de cette paix à tous les niveaux.
En deux mots, professeur Alban Aouré, est-ce que vous croyez que la présidentielle dans 3 ans se fait déjà sentir parce qu'il s'agira de la succession de Alassane Ouattara qui ne pourra plus se représenter?
La présidentielle dans 3 ans devra se faire ressentir à travers l'argumentaire, les arguments des uns et des autres, et non pas la force des armes, si ça doit être ainsi, ou si nous devons penser à cela. Donc je veux dire qu'il faut que chacun, ceux qui se sentent candidats, puisse développer déjà des programmes, commencer à convaincre davantage les populations. C'est cela le jeu démocratique, et c'est cela que nous devons consolider. Et donc pour nous, nous regardons dans l'environnement, qui sont ceux-là qui peuvent émerger, qui peuvent avoir des propositions, des solutions pour que la Côte d'Ivoire demeure sur la pente de la croissance avec une meilleure redistribution encore de cette croissance pour qu'on puisse aller vers le développement.
Merci beaucoup. Nous finissons avec André Silver Conan. Est-ce que, de votre avis, Monsieur Silver Conan, on commence à sentir un peu, disons, le rapprochement de l'échéance de 2020, donc la fin prochaine du séjour au pouvoir de Monsieur Alassane Ouattara. Il s'agira de le remplacer. Est-ce que ce à quoi on assiste actuellement est déjà un peu le signe du rapprochement de cette échéance?
Oui, nécessairement. Je pense que tous ceux qui se pensent être présidentiels aujourd'hui se rasent chaque matin devant le miroir en pensant à 2020. Et peut-être que le président Ouattara dise déjà très clairement qu'il ne se représente pas à l'issue de son mandat, son dernier mandat, ça nourrit des ambitions souvent mesurées. On espère que les potentiels candidats développeront donc des idées, non des arguments de la force. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que quand même, il reste 3 ans au président Ouattara et à l'analyse des faits depuis 2011, ce qui lui crée davantage de problèmes, ce sont ses propres enfants en griffe issus des ex-forces nouvelles, moins de problèmes venant du camp Gbagbo. Cela veut dire que la méthode et le style qui ont consisté donc à enfermer le pouvoir dans un cadre typiquement RHDP, donc des groupes issus de sa mouvance présidentielle, cette méthode et ce style ont montré leurs limites. Et donc, il doit davantage ouvrir sa gouvernance à toutes les couches sociopolitiques, toutes les couches géopolitiques pour réussir le reste de son mandat. Sinon, ça sera désastreux.
Mais merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion que nous avons consacrée au dernier développement en Côte d'Ivoire, un pays secoué par des mutineries à répétition et où on pense que tout n'est pas fini malgré l'accord annoncé par le gouvernement. Nous étions avec André Silver Conan, lanceur d'alerte, écrivain et journaliste d'investigation. Professeur Alban Aouré est président de la cellule d'analyse de la politique économique de Côte d'Ivoire et Kaksan aussi, président de l'Institut international de gestion des conflits. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis de bout en bout et nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre sujet sous l'arbre à palabres.